Ça, c'est la photo, c'est pas le film. C'est la même erreur qu'à propos des 35 heures. On raisonne ici comme si position entre l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors. Je veux dire, c'est uniquement si on n'est pas dynamique, si on raisonne en photographie, qu'on a l'impression qu'il y a un jeu à somme nulle entre l'emploi des uns et l'emploi des autres. C'est un raisonnement à très court terme qui ne tient pas dès qu'on regarde le dynamisme de l'économie. Tu as parlé de R&D, d'innovation, Gilbert. Moi, ce qui me navre un peu, et en même temps je comprends, c'est que en 2000, les Européens avaient eu une idée géniale avec l'agenda de Lisbonne, et on n'en a rien fait au niveau européen de l'agenda de Lisbonne. On n'en a rien fait, alors que pour une fois, les Européens avaient fait le bon diagnostic, en disant il faut que l'Europe devienne modèle en matière d'économie de la connaissance, en matière de taux d'emploi, on en est loin, etc. Huit ans après Lisbonne, huit ans après l'agenda de Lisbonne, et ce n'est pas le problème uniquement de la France, c'est le problème de l'Union européenne, des 27 pays de l'Union européenne, on n'est nulle part, parce que finalement, le court terme a empêché, ou en tout cas les politiques n'ont pas pris suffisamment en charge les objectifs et la réalisation de l'agenda de Lisbonne. Tu as parlé d'enseignement supérieur, tu n'as pas beaucoup parlé, parce que tu n'avais pas le temps, de démographie, de politique d'immigration, ça va être un sujet, parce que il est clair que pour compenser l'évolution naturelle de la population active dans nos pays développés, on est tenté de faire appel à une main-d'œuvre qualifiée, très qualifiée, et que le débat, c'est en essayant de maintenir ou de relever notre croissance potentielle par une immigration, j'allais dire, de très haut niveau venant d'un certain nombre de pays émergents, est-ce qu'il y a un risque qu'on réduise la croissance potentielle dans ces pays émergents? J'aimerais bien que dans le débat, il y ait une dimension internationale. On voit bien que la croissance effective peut être déterminée positivement ou négativement par les succès ou les échecs de la coordination internationale. Bon, mais est-ce que la croissance potentielle, qui reviendra peut-être Philippe, est-ce que la croissance potentielle, autre Philippe, est-ce que la croissance potentielle peut être influencée ou pas par les échecs ou les réussites de la coordination internationale des politiques économiques? Là-dessus, on n'a pas beaucoup d'éléments. Je termine ce point. Tout ce qui est aide aux PME en France, on a l'air très loin du sujet, on est très près du sujet. Tous les rapports qu'on a faits au CAE, également le rapport de la commission Attali, montrent que le problème qu'on a en France, on perd énormément de croissance effective et de croissance potentielle et d'emploi à travers un creux dans notre gamme, dans notre structure productive, l'insuffisance de moyennes entreprises. Bon. Et donc, toutes les politiques qui visent, et ça va être très important dans les mois qui viennent, d'essayer de maintenir un financement qui ne sera pas nécessairement un financement bancaire à cause de la crise, mais qui de trouver des relais, des compensations à la réduction probable du financement bancaire des PME, c'est très important par rapport au sujet, pour essayer de maintenir de la croissance effective et de la croissance potentielle en France. Je termine, c'est ma conclusion, par un mot sur, qui fera peut-être la transition avec la suite, sur la question du financement des réformes de structure. Il est clair que la crise actuelle réduit les marges de manœuvre budgétaires. Partout, et également en France, où on aborde cette crise avec déjà des déficits et des ratios d'aide publique qui ne sont pas terribles, qui ne nous mettent pas dans les meilleurs élèves de la classe. Donc, un des défis, à mon avis, qu'on a en Europe et par exemple en France, ça va être, bien sûr, de continuer les réformes de structure pour essayer de soutenir la croissance effective et de relever la croissance potentielle, et d'essayer de le faire, de financer ces réformes sans trop peser sur les budgets publics. On va dépasser le 3% de déficit l'année prochaine, ça a été acté au niveau européen, que la crise financière, la crise économique sont des circonstances exceptionnelles qui permettent de mettre entre parenthèses pour le court terme le pacte de stabilité et de croissance, mais on ne peut pas aller non plus vers des niveaux très élevés de déficit et de dette. Et donc, le débat, qui est un débat économique et un débat politique, c'est de savoir comment on pondère aujourd'hui, dans un pays comme la France, les mesures de politique économique qui passent par les budgets publics et les mesures de politique économique qui sont financées hors budget. Il y a de l'épargne en France. L'épargne des ménages fait entre 15 et 16% de leurs revenus disponibles. La France est encore un des pays européens qui épargne le plus. L'épargne n'a pas baissé malgré les circonstances économiques difficiles, à la différence de l'Italie ou de tel pays européen. Donc le débat de politique publique, c'est de savoir comment mieux canaliser cette épargne des ménages qui est là, vers le financement de l'investissement productif, vers le financement du soutien des PME, vers le financement de la R&D publique et privée. C'est ça le débat. Continuer les réformes sans trop peser sur des budgets publics qui sont déjà à la limite, disons, des seuils de tolérance. Merci de votre attention.
Merci Christian de ces réflexions. Tu as ouvert beaucoup de pistes que nous allons continuer à creuser. Et c'est maintenant au tour de Philippe Bouilloux, qui est directeur des politiques économiques à Bercy, au ministère de l'économie. On lui a posé un certain nombre de questions déjà. Et je vais me permettre donc de revenir sur un point évoqué par Christian de Boissieu à l'instant en vous lisant un passage de la conclusion du rapport donc sur les leviers de la croissance française. Donc Philippe Bouilloux, je lis à votre attention cette phrase. La combinaison d'un accroissement de l'offre de travail qui pourrait résulter des réformes permettant de remonter le taux d'emploi en France. Donc la combinaison d'un accroissement de l'offre de travail et d'un déficit de demande, et là c'est la conjoncture dont nous avons parlé où la croissance effective diminue et tire vers le bas la croissance potentielle. Donc cette combinaison pourrait se traduire par une hausse du chômage, c'est en conclusion du rapport, qui pourrait elle-même compromettre la poursuite des réformes. Donc ça, c'est la question que nous vous posons de la faisabilité, de l'acceptabilité des réformes en cours, éventuellement des réformes à venir, dans une conjoncture dont on sait maintenant qu'elle va être moins propice qu'on pouvait l'espérer. À vous.
Merci. Comme vous l'a dit Philippe Le Fournier, je travaille au ministère de l'économie, je travaille à Bercy, je suis fonctionnaire et je suis économiste. Christian de Boissieu, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Christian de Boissieu vous a déjà indiqué qu'il y avait des économistes qui conseillaient le gouvernement et qui étaient au Conseil d'analyse économique. Moi, je vous indique que je travaille au ministère des Finances, que je suis également économiste. Je travaille dans une direction qui est la direction générale du Trésor et de la politique économique. Voilà. Donc, vous ne saviez peut-être pas, en rentrant dans cette salle, qu'il y avait des économistes au service du gouvernement. Vous allez peut-être vous dire qu'il y en a trop. Je précise qu'on n'est pas forcément en désaccord. On ne fait pas exactement la même chose. Moi, je participe aux travaux du Conseil d'analyse économique, mais le Conseil d'analyse économique, ce sont essentiellement des chercheurs, des universités qui se réunissent, qui font des rapports et qui remettent périodiquement des rapports au gouvernement et qui peuvent également répondre à des questions que pose le gouvernement. Pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne les fonctionnaires de la DGTPE, nous sommes rattachés à Bercy, au ministère des Finances, et nous y sommes à plein temps. Le temps est d'ailleurs parfois assez long, les journées sont parfois assez longues, mais nous y sommes à plein temps. C'est-à-dire que nous devons produire des analyses pour lesquelles on a un petit peu de temps pour travailler, et nous devons aussi répondre à la demande du ministre et donner des conseils, mais parfois avec des demandes qui sont adressées avec des délais extrêmement courts. Donc nous avons un compromis à réaliser au quotidien entre la science, entre guillemets, et puis le conseil tout à fait opérationnel pour un gouvernement. Voilà. Alors, pour en revenir à notre sujet, je précise d'abord que je suis assez largement d'accord avec ce qui a été indiqué, que ce soit par Gilles Berset ou que ce soit par Christian de Boissieu, et avec en particulier le rapport du CAE qui a été évoqué. Ce rapport indique quels sont les leviers que l'on peut actionner pour renforcer la croissance potentielle. Et ce rapport rejoint d'ailleurs également un certain consensus, puisque si vous lisez les rapports qui sont produits par les organisations internationales, par l'OCDE notamment, peut-être et aussi par le FMI, vous voyez qu'il y a des messages sur lesquels les économistes sont globalement assez d'accord. Je pense que c'est un message relativement rassurant. Je le résumerai, ce message un peu consensuel, je pense, en trois temps, trois leviers. Premièrement, il faut mobiliser les facteurs de production et notamment le travail. Pour accroître la croissance potentielle, il faut plus de quantité de travail dans l'économie. C'est le premier levier. Deuxième levier, avoir plus de facteurs, avoir plus de travail dans l'économie, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il que les facteurs de production soient bien utilisés, c'est-à-dire qu'ils soient efficaces. Il ne suffit pas de mettre les gens au travail pour que la croissance accélère durablement. Parce qu'une fois qu'ils sont au travail, comment vous produisez une nouvelle accélération ? Donc pour cela, il faut faire des réformes. C'est le champ des réformes qu'elles portent sur d'abord le marché du travail ou sur les marchés de produits pour une économie plus efficace. Mais si vous regardez maintenant un peu plus dans le long terme, cette efficacité que vous pouvez avoir à travers des réformes, elle ne porte pas nécessairement des effets sur le très long terme. Sur le très long terme, surtout pour une économie développée comme l'économie française, ce qui va compter, c'est ce que Philippe Aguillon, économiste fameux, appellerait la frontière technologique. Il faut être avec la frontière technologique, il faut déplacer la frontière technologique. De manière concrète, il faut investir dans l'éducation supérieure et dans la recherche. Donc les trois leviers principaux de la croissance potentielle: mobiliser les facteurs et notamment le facteur travail, augmenter la quantité de travail, premièrement. Deuxièmement, être plus efficace dans le fonctionnement de notre économie et dans le fonctionnement de notre marché et de nos marchés. Et troisièmement, investir dans la connaissance. Voilà, c'est une grille qui est assez simple et je trouve qu'elle est assez utile. Dans mon métier, elle est assez utile et comme citoyen, je pense qu'elle est également utile quand vous essayez d'avoir une appréciation sur la politique économique qui est suivie. Vous voyez quelle est l'action d'un gouvernement. Eh bien, demandez-vous si globalement on actionne ces différents leviers. Et quand le gouvernement présente une mesure, dites-vous, cette mesure-là, est-ce qu'elle concourt à actionner l'un de ces leviers et est-ce que par là elle va pouvoir accélérer la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance dans la durée? Parce que, excusez-moi, notre session tourne autour de la croissance potentielle. C'est un mot que les gouvernements n'aiment pas beaucoup, hein, la croissance potentielle, parce qu'ils connaissent la croissance du trimestre qui vient de sortir ou du prochain trimestre. Ils connaissent encore peut-être la croissance sur une législature, mais bon, ils ne sont pas élus sur une croissance potentielle. Et pourtant, c'est là qu'est le vrai enjeu. La croissance potentielle, c'est la croissance que vous soutenez dans la durée, sans creuser des tensions dans l'économie, notamment du côté de l'inflation. C'était ma première remarque sur cette grille de lecture et sur ces leviers sur lesquels je pense que nous sommes d'accord ici. Mon deuxième point, c'est que quand on essaie de procéder à des évaluations, et Gilbert vous en a donné l'intuition, on essaie d'évaluer la contribution de ces différents leviers, justement à la croissance potentielle. Une idée supplémentaire que je voudrais apporter, c'est qu'il y a une complémentarité entre ces différents leviers. La recommandation que l'on peut faire n'est certainement pas de miser tout sur un seul de ces leviers. Il faut les actionner simultanément parce qu'on est plus efficace en procédant de la sorte. Pourquoi ? Il y a des complémentarités qui sont évidentes. Réformer l'université et agir pour la recherche, même la recherche privée, il y a des complémentarités très claires entre les deux. Mais au-delà, dépenser de l'argent pour l'université, ce n'est pas indépendant de la réforme que vous pouvez souhaiter sur le marché du travail. Parce que si vous voulez avoir un marché du travail qui est plus flexible, hein, au-delà du slogan, vous voulez que les gens puissent s'adapter davantage. Il ne s'agit pas de faire bouger les gens de force s'ils n'ont pas la capacité à s'adapter. Dans une société dans laquelle vous avez plus de diplômés, vous avez en principe des gens qui sont plus capables de s'adapter, de changer et d'être flexibles. Il y a un lien entre investissement dans l'enseignement supérieur et flexibilité, efficacité du marché du travail. Autre complémentarité, réforme sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail et réforme sur le marché des biens. Si vous voulez rendre le marché du travail plus flexible, très bien. Si dans le même temps les entreprises sont assez peu en concurrence les unes avec les autres, comment vont-elles utiliser la flexibilité que vous leur donnez sur le marché du travail? et en accroissant leur marge. Donc il est important, si vous voulez jouer sur, si vous voulez améliorer l'efficacité du marché du travail et si vous voulez que ça ait un effet sur la croissance potentielle, il est important non seulement de réformer le marché du travail, mais aussi d'accroître la concurrence entre les entreprises sur les marchés des biens. Donc là également, il y a une complémentarité entre les différentes réformes. Ce qui veut dire qu'en termes de recommandations au gouvernement, eh bien la recommandation, c'est en général d'agir sur l'ensemble des leviers, sur les trois registres que j'ai indiqués tout à l'heure. Alors évidemment, évaluer l'effet de ces réformes, c'est quelque chose qui est assez difficile. Là aussi, Gilbert Sept vous a donné quelques intuitions là-dessus. On a différentes méthodes pour essayer de voir les enjeux en termes de croissance potentielle que représentent les réformes. On peut faire, et c'est ce qu'a fait, le rapport du CAE, on peut faire de l'économétrie à partir de données portant sur différents pays. On obtient des ordres de grandeur comme ceux qui vous ont été présentés tout à l'heure. On peut aussi utiliser des évaluations plus générales. Le Fonds monétaire international l'a fait. C'est assez discutable. Ça donne des ordres de grandeur assez impressionnants. On vous dit que en France, si on augmentait fortement la concurrence sur les différents marchés, on pourrait gagner 8 ou 9 points de croissance du PIB. Bon, ça peut se discuter. Et c'est un peu théorique. De mon point de vue, ce à quoi je suis confronté au jour le jour, c'est au-delà d'ordres de grandeur généraux que l'on peut fournir pour convaincre les gouvernements qu'il y a un enjeu important, significatif à la réforme, au-delà, les questions que l'on a, c'est des questions sur telle ou telle réforme particulière. Je veux faire quelque chose pour la recherche privée, je réforme le crédit d'impôt recherche. Qu'est-ce que je peux en attendre ? Sur la croissance potentielle, ou disons sur la croissance à un horizon de 5 ans. Je veux décider de rendre plus facile l'ouverture des commerces le dimanche. Est-ce que ça a un effet sur la croissance, sur l'emploi et combien ? Je veux réformer le secteur de la grande distribution. Là aussi, un coût politique assez élevé, une réforme qui n'est pas facile. Est-ce que ça en vaut la peine en termes d'effets à attendre sur la croissance ? Voilà le genre de questions qui nous sont posées et auxquelles on essaie de répondre. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut regarder mesure par mesure en utilisant de petits modèles. Je voulais juste vous en donner une illustration. Parmi les réformes que j'ai mentionnées, il y a celle de la grande distribution. C'est une réforme dont l'objectif est de mettre plus de concurrence dans le secteur. Comment fonctionne-t-on ? Quel est notre rôle ? D'abord, on essaie d'examiner, de manière un petit peu objective, quel est le degré de concurrence dans ce secteur. On le regarde au plan international. Les comparaisons internationales sont toujours difficiles, mais on a l'impression qu'il y a plutôt moins de concurrence que dans d'autres pays. On le regarde de manière historique et on a l'impression que, depuis qu'il y a eu les lois, Raffarin, Galland, etc., le degré de concurrence a plutôt eu tendance à se réduire si on l'apprécie en regardant des taux de marge, hein, des taux de markup, un rapport entre le prix de vente et le coût marginal dans le secteur. Donc on se dit qu'il y a un enjeu. Maintenant le gouvernement dit très bien, si je ramène le degré de concurrence tel que vous l'estimez à ce qu'il était il y a 10 ans, ou si je le ramenais à ce qu'il est en moyenne dans l'Union européenne, quel effet cela produirait ? Et donc là, on essaie d'avoir des petits modèles pour répondre à ces questions. Donc l'intuition que vous avez, elle est simple. Si vous avez plus de concurrence, ça va faire baisser les prix. Si vous faites baisser les prix, ça va plutôt accroître la demande pour les produits du secteur que vous réformez. Ça va plutôt augmenter son activité, ça va plutôt augmenter l'emploi. Très bien, on essaie d'évaluer ça. Et en même temps, on se rend compte que ça a des effets d'entraînement. Ça a des effets sur les autres secteurs. Alors qui dépendent de la taille du secteur dans lequel vous faites la réforme, qui dépendent de son intensité en emploi ou de son intensité capitalistique. Et puis, les interactions entre les différents secteurs vont dépendre du degré de complémentarité ou de substitution entre les produits des différents secteurs, celui que vous réformez et puis les autres. Donc, secteur par secteur, une réforme qui introduit plus de concurrence ne va pas produire le même effet sur la croissance potentielle et sur l'emploi. Donc on essaie d'illustrer ça à travers des petits modèles. Et pour vous donner l'intuition et les ordres de grandeur auxquels on arrive, une réforme mais une réforme assez radicale dans le secteur de la grande distribution, ça peut faire à terme plus d'un point de PIB, ça peut faire à terme plus de 100, 150 000 emplois, peut-être. Ça, ce sont des ordres de grandeur des enjeux. On n'est pas naïf. On ne croit pas à nos modèles comme étant vérité d'évangile. Et on sait bien que une réforme, tout dépend de la façon dont elle est mise en œuvre. Tout dépend de la façon dont les choses vont se passer au niveau des entreprises. Tout dépend de la façon dont les choses vont se passer au niveau local. Mais au moins, on donne un ordre de grandeur de l'enjeu, même si c'est fragile. C'est fragile, en l'occurrence, les chiffres que je viens de vous donner, et pour importants qu'ils soient, sont peut-être des minorants. Parce que ce que je vous ai décrit, c'est assez réducteur par rapport à ce qu'on peut attendre de plus de concurrence. Je vous ai parlé de baisse de prix et d'effet induit par une baisse de prix, mais au-delà, ce qu'on attend de plus de concurrence, c'est plus d'efforts de la part des entreprises, c'est plus d'efforts d'innovation, c'est plus d'efforts pour renouveler l'offre. Et ces effets-là n'ont pas été pris en compte dans le calcul un peu intuitif que je vous ai indiqué. Donc au total, sur cette base-là, eh bien, on est assez confortable, entre guillemets, pour dire au gouvernement, oui, ça vaut vraiment la peine, il y a un gros enjeu, d'après nos estimations, d'autres économistes peuvent les contester, mais on a le sentiment qu'il y a un gros enjeu, qu'il est de cet ordre, allez-y. Voilà le genre de choses que nous pouvons faire. Encore une fois, les économistes dans l'administration, nous ne sommes pas des universitaires, des chercheurs, nous sommes en contact avec eux. Je participe aux travaux du Conseil d'analyse économique et à partir de cela, on essaye de faire différentes choses. On fait des prévisions aussi, c'est un peu difficile en ce moment, et on fait du Conseil de politique économique sur cette base-là. Donc je voulais, ça sera un peu le mot de la fin, je vois qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle. Si vous vous intéressez à l'économie, ce qui est sans doute le cas, sachez que vous pouvez faire des études d'économie à l'université et devenir des chercheurs. Vous pouvez aussi, si ça vous motive, travailler comme économiste au service du gouvernement et au service de l'économie française. Et pour ceux qui n'envisagent pas forcément une deuxième carrière, je voulais signaler donc qu'il y avait, mais je ne sais pas si ça va vous rassurer ou vous inquiéter, mais qu'il y avait pas mal d'économistes qui travaillaient au sein du gouvernement et pour le gouvernement. Voilà, merci.
Bien, merci Philippe Bouilloux. Je vois que vous avez appliqué votre premier levier, mobiliser le facteur travail. Donc, bravo. Et maintenant, donc, Christian de Boissieu, comme il nous l'avait dit, est obligé de nous quitter. Et j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que Jean-Christophe Leduigou nous fait savoir que pour un problème de santé, il ne peut pas nous rejoindre. Et nous devions terminer donc le débat avec lui qui incarnait le facteur travail et Olivier Klein qui parlera plutôt du capital. Donc nous allons un peu remanier le déroulement. Mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est que la surprise dont je vous ai parlé, c'est du cinéma. Donc nous allons avoir une vidéo dont l'auteur, eh bien précisément, est un autre auteur du rapport Les leviers de la croissance française, qui vient d'être qualifié par Philippe Bouilloux d'économiste fameux, c'est votre formule. Il est actuellement à Harvard, où il enseigne. C'est un spécialiste de l'économie, la croissance endogène, que nous avons évoqué un certain nombre de fois dans cette discussion. Donc Philippe Aguillon a enregistré pour vous une vidéo qui provient donc directement de Harvard. Après quoi donc